Petit extrait du livre, L'initiation de Pietro, Dr. Francis Lefebure. Édition Phosphénisme. Avant-propos. Depuis très longtemps, de nombreux lecteurs nous ont demandé de résumer nos travaux, en particulier de composer un manuel des exercices, dont nous avons donné les raisons physiologiques et psychologiques, mais notre œuvre n'est qu'une étude de la technique initiatique, que nous a transmise Artem Galip, véritable mage zoroastrien. Un résumé de notre travail ne pourrait être qu'une nouvelle présentation, sous un autre aspect, de cette technique. Or, le présent ouvrage n'est pas seulement un résumé. En effet, nous pensons qu'en étudiant la méthode de Galip à l'aide de la cervoscopie et de la synchrophonie, nous avons découvert plusieurs lois de physiologie cérébrale, utilisées à leur insu, par les yogis qui parviennent à de grands pouvoirs mentaux. La connaissance de ces lois permet de pratiquer les exercices d'une façon qui confère rapidement et à coup sûr des pouvoirs, tels que la lecture de la pensée, la voyance dans l'avenir, ou la manifestation à distance d'un double, alors que jusqu'à présent, ces entraînements ne donnaient que des résultats aléatoires, et qui variaient considérablement d'un sujet à l'autre, ce que personne n'avait pu expliquer. Cette connaissance a permis, en outre, de créer des exercices nouveaux beaucoup plus efficaces, et d'ordonner leur succession, sur une base physiologique. Nous avons donc perfectionné la méthode Galip à tel point, que nous donnons ici une méthode véritablement nouvelle. Le lecteur n'aura d'ailleurs qu'à appliquer nos conseils, pendant quelques semaines, le matin et le soir, pour parvenir à la certitude, que nous l'avons mis sur un schéma extraordinaire. Nombreux sont nos auditeurs, et nos lecteurs pouvant témoigner que cette nouvelle méthode leur a permis de réaliser, en moins d'un mois, des expériences subjectives, et avec vérification objective. L'acquisition de certains pouvoirs, n'est qu'un signe extérieur. L'essentiel réside dans la transformation de l'état de conscience. L'élévation morale, avance de pair avec les autres progrès. C'est en raison de la nécessité de ce progrès moral accompagnant l'acquisition de pouvoirs, que nous avons longuement insisté sur les rapports entre l'affectivité et les techniques initiatiques. La méthode de Galip, ainsi perfectionnée, constitue une voie rapide et certaine vers la connaissance supranormale. Pour faciliter la pratique de la méthode, vous trouverez dans le manuel yoga de 2 secondes un condensé de ces exercices, qui vous servira d'aide-mémoire. Dans l'appendice de ce livre, nous avons donné une description du synchrophone, du cervoscope et du cyclotron cérébral. Le cervoscope permet l'exploration des rythmes du cerveau, qui nous a conduit au yoga de 2 secondes. Le synchrophone produit des états, qu'on obtenait jusqu'à présent, que par des entraînements mystiques, et il aide beaucoup à leur pratique. L'usage de ces appareils constitue le cérémonial initiatique des temps modernes. Nous exposons enfin les résultats, encore inédits, de certaines expériences, faites au moyen du synchrophone, ainsi que les premiers résultats obtenus avec le cyclotron cérébral. Mais tout cela constituerait un exposé bien aride, pour une œuvre destinée au grand public. Nous avons donc essayé de la rendre plus attrayante, en associant à l'exposé philosophique et scientifique une étude sommaire des principaux films de cinéma portant sur les sciences psychiques. Nous avons éliminé tous les films inspirés par des légendes, ou dont le fantastique est incohérent, pour nous limiter à quelques-uns parmi ceux ayant trait au spiritualisme moderne, c'est-à-dire recherchant une interprétation scientifique, expérimentale, des phénomènes psychiques. Nous n'avons nullement la prétention d'avoir fait à ce sujet un travail complet, les recherches documentaires sur les films anciens étant assez difficiles. Nous avons centré notre étude sur l'un d'entre eux, dont le rapport avec les sciences psychiques n'est pas évident à première vue, mais dont le charme nous a paru fascinant. Nous nous sommes permis là une fantaisie, que le lecteur voudra bien nous pardonner puisqu'elle a pour but de lui rendre plus agréable la lecture de l'exposé du yoga de 2 secondes, et l'accès à la quatrième lumière. À notre époque, la vraie force occulte doit se répandre à travers toute l'humanité, et chaque homme devrait l'expérimenter. Pour cela, il doit d'abord être instruit de la technique. Si sa pratique est passionnante, parce que, véritablement, On y voit s'ouvrir les portes de l'autre monde, la description de ces méthodes est un peu fastidieuse. Nous espérons l'avoir rendue plus lisible, en l'illustrant d'une façon, qui n'avait encore jamais été utilisée et qui, à première vue, peut paraître un peu étrange. Nous avons agrémenté notre présentation en utilisant un film. La fille au fouet, d'après le roman de Zahn. Pietro le contrebandier, Pietro der Schmuggler, qui fournit un agréable décor à notre enseignement, les extérieurs ont été filmés en Suisse dans le Valais. Autre petit extrait. Chapitre 2. Les deux clés de la force occulte. Grand 1. Promenade jusqu'à la source. Gamin, tu te moques pas mal de mes discours. Te voilà encore à chasser les corbeaux, te cambrant pour viser presque à la verticale, et ton rire enchanteur d'adolescent à l'âge de la mue, résonne gamin, comme la petite cascade du torrent, non parce que tu t'es montré adroit, mais parce que tu as réveillé en sursaut le contrebandier de passage. Qu'il est clair et argentin, ton rire taquin. Pourtant, même dans ce rire, à ton insu, ta vocation occulte s'est dévoilée, car ta colonne vertébrale a été secouée par une ondulation semblable à celle du serpent. Mais tes airs de métamore lorsqu'après la chasse tu remontes la pente, le fusil sur l'épaule, la chemise ouverte jusqu'au cœur ne me trompent pas. Tu n'es qu'un chasseur débutant, car parfois, tu te mords la lèvre inférieure en tirant, ce qui n'est pas prudent. Puisque nous sommes sur la pente herbeuse au bas de laquelle coule un filet d'eau derrière un rideau d'arbres, descendons la rivière ensemble, puis remontons le cours de l'eau jusqu'à sa source. Cette semaine, je veux t'expliquer les deux clés que j'ai découvertes, qui complètent celles que j'avais reçues du mage, qui m'instruisit à 18 ans. Elles suffiront, à elles seules, à te donner de très hauts pouvoirs. Quand, un peu plus tard, je t'indiquerai les méthodes du mage, souviens-toi de ce que ces clés doivent être utilisées sans interruption, pendant tous les exercices, car elles ouvrent les portes, à la force qui en est le vrai but. Ces exercices ne doivent donc être considérés que comme la main ou le levier qui tourne ses clés. Ils ne portent vraiment effet que grâce à elles, ce qui explique l'irrégularité de leurs résultats jusqu'à présent. Mais, avant de t'indiquer ces clés, je dois tout d'abord te rappeler l'exercice fondamental du yoga. Grand A, source et concentration. Tu l'as appris, par les livres que tu lisais en cachette à l'école, c'est l'exercice de concentration de l'esprit sur un point. Mais il n'était indiqué que très sommairement et il faut que je te donne quelques précisions à son sujet. Tout en bavardant, nous voici remontés, jusqu'à la source du torrent. Observe-la. Elle t'apparaît comme un trou, un vide dans les rochers ou, de loin, comme un point rendu brillant, par les reflets du soleil. L'eau ne s'en écoule pas avec un débit constant, mais avec une pulsation régulière. Elle rend, en bondissant de roche en roche, un son où ton oreille de musicien discernera la note aiguë de la petite goutte qui saute, à l'opposé, la grave résonance de la grotte d'où la source part, ainsi que toutes les notes intermédiaires. Puis l'eau coule, en s'adaptant au contour des rochers, jusqu'à la vallée où elle apportera la vie. De même, je vais t'apprendre à découvrir dans ton âme, un petit creux, un vide, un point brillant. Tu observeras que de cette source interne, coule une force que tu ne connaissais pas et qui donne à ton âme une vie nouvelle, c'est-à-dire une énergie sans cesse renouvelée, engendrant des formes et des créations permanentes, adaptées à ta nature. Ce n'est point là une vague métaphore, mais une réalité facile à percevoir. Pour cet exercice, assieds-toi à l'ombre de cet arbre, ferme les yeux et imagine-toi, par exemple, une des gouttelettes brillantes, qui bondissent par-dessus la cascade ou mieux peut-être, la flamme de la chandelle avec laquelle tu t'éclaires dans ta cabane. Si possible, même, une des étincelles qui s'en détachent, de temps à autre. Bref, représente-toi un objet aussi petit, brillant et indéfini que possible. Il n'est pas nécessaire, pour continuer cette expérience, que l'image mentale soit parfaite, autant que tu le désires. Cela est même impossible, car tu observeras qu'un objet imaginaire petit, et informe possède une tendance à se dilater dans ton imagination, tendance contre laquelle ta volonté est impuissante, de sorte qu'il se produira, dans l'image, des fluctuations de dimension, causées par l'alternance de l'effort, que fait ton imagination, tendue vers l'infiniment petit, et de la force de dilatation spontanée de l'imagination, pendant les temps où tu te reposes de cet effort. Il te faut donc reconstruire périodiquement cette très petite image mentale. Grand B, phosphène et concentration. Certains abandonnent, à l'entrée, le sentier secret, parce qu'ils sont déroutés par les éclipses du point de concentration et se croient alors incapables de pratiquer l'exercice, qui est la base nécessaire pour la suite. Mais, regarde le soleil en face ou une forte lampe, puis va dans l'obscurité. Quelques instants après apparaissent des images consécutives à ce brutal éclairage, images que nous appelons phosphènes. Tu observeras qu'elles aussi apparaissent progressivement, puis disparaissent subitement, comme ton point de concentration tout à l'heure. Mais tu peux être certain qu'elles se reformeront et que le cycle se répétera un très grand nombre de fois, avant de s'éteindre. Or, de multiples faits prouvent, et nous aurons d'autres occasions d'en parler, que les lois de la pensée, qui ne sont soumises à aucune pression des organes des sens, principalement la pensée la plus simple de toutes, qui est évidemment celle d'un point, sont les mêmes que les lois, qui régissent les phosphènes. Il est donc naturel, que le point de concentration, disparaisse périodiquement de ton imagination. Mais là encore, tu peux avoir confiance. Il te suffit d'attendre dans le calme, dans le vide mental aussi poussé que possible, et il se reformera de lui-même, plutôt un peu plus brillant. Grand C, sens du mot, point, dans l'expression, point de concentration. Mais, avant d'aller plus loin, il faut nous attarder un peu sur un problème, qui est presque seulement de vocabulaire, et définir plus clairement ce que j'entends par, point de concentration. Géométriquement parlant, un point est infiniment petit. Aucun organe des sens ne peut donc nous permettre de le percevoir. On ne peut donc pas plus se représenter un point par l'imagination visuelle, que l'on ne peut construire dans son esprit, l'image d'un objet à quatre dimensions, c'est-à-dire dans lequel on pourrait mener quatre droites perpendiculaires les unes aux autres, en un seul point. On ne devrait donc pas dire que l'on concentre son imagination sur un point, mais, vers, un point, c'est-à-dire le plus près possible de l'infiniment petit, si l'on s'en tenait au langage mathématique. Mais certaines personnes confondent l'expression, vers un point, avec, en direction de l'infiniment lointain. D'autre part, le mot, point, n'est pas employé seulement dans un sens mathématique. Le, point de couture, par exemple, possède bel et bien une surface appréciable. Donc, la coutume est d'utiliser le mot « point » dans le domaine visuel, pour désigner le plus petit angle de vision appréciable à l'œil nu, la surface dépendant évidemment de la distance. Cet angle de vision minimum est un élément très précis, car il est déterminé par l'excitation d'une seule cellule rétinienne. Une étoile en est un bon exemple, son scintillement étant précisément dû à ce que le rayon lumineux passe d'une cellule rétinienne à sa voisine, pour diverses raisons, et ceci très rapidement. Le plus petit temps appréciable devenant ainsi un point de temps, notion que nous retrouvons dans la concentration de l'esprit. En effet, par similitude, nous appelons concentration de l'esprit sur un point, la création d'une image mentale aussi petite que c'est réalisable. C'est un point d'imagination qui est l'homologue, dans la pensée, de l'excitation d'une seule cellule visuelle. Comme lors de l'observation d'une étoile, nous remarquerons que nous ne pouvons garder stable longtemps cette image très petite. Elle n'existe qu'un point de temps mental, et il faut, un peu après, la recréer. Grand D, point d'espace et point de temps. Nous nous familiarisons ainsi avec la concentration de l'esprit vers l'infiniment petit dans l'espace et dans le temps, autrement dit sur un point, et nous sous-entendrons toujours d'espace et de temps. La persévérance, sur cet exercice, nous montre qu'il nous conduit à l'illumination progressive de l'esprit, qui nous dévoile des mondes habituellement invisibles. Grand E, dilatation spontanée du point de concentration. As-tu pris, par exemple, l'image d'une poussière, brillant dans un rayon de soleil, qui traverse une pièce obscure? Pratiquement, cette image est celle d'un point. Or, je te le répète parce que c'est la base de notre entraînement, ce point grandit malgré toi. Il te faudra donc tout effacer ou laisser s'effacer, et recommencer à former l'image de la poussière, sur un cycle que je t'apprendrai plus tard à rendre régulier. Au premier abord, cette croissance involontaire du point de concentration paraît bien peu de chose. Pourtant, c'est en le cultivant méthodiquement, par l'ensemble des procédés que je vais t'indiquer, que ce point deviendra brillant comme un soleil, et te dévoilera les lieux où les âmes séjournent entre deux incarnations, dans lesquelles, actuellement, nous baignons sans interruption à notre insu. De même, la radioactivité naturelle est un phénomène si petit, qu'il a fallu attendre jusqu'à la fin du siècle dernier pour la découvrir. Mais il est tellement en rapport avec les origines du cosmos qu'après sa découverte, l'homme n'a pas tardé à en tirer la force physique la plus puissante qu'il n'ait jamais eue à sa disposition. Fin des extraits. Retrouvez l'intégralité du livre audio sur le site phosphénisme.com.